Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal présenté par Noéla Luzi Tukabambi.
Au lendemain de la décision de l'AFC M23 de se repositionner du territoire de Walikale au nord Kivu, les combattants de ce mouvement sont toujours visibles au centre de Walikale, confirmation donnée par plusieurs sources sur place. Les consultations politiques en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale vont démarrer ce lundi 24 mars ici à Kinshasa, annonce faite samedi par le directeur de cabinet du conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité au cours d'un point de presse dans la capitale congolaise. Joe Chortano, responsable de l'entreprise Mentecas, est l'invité de ce journal. Il va à la fin de cette édition expliquer comment les jeunes peuvent, à travers le numérique, créer de l'emploi, entreprendre et étendre leurs activités, même à partir des faibles moyens. Bonjour à tous. Au Nord Kivu, au lendemain de la décision de l'AFC M23 de se repositionner du territoire de Walikale, les combattants de ce mouvement sont toujours visibles au centre de Walikale, confirment plusieurs sources sur place. Ils sont visibles au bureau du territoire et dans les rues du centre de Walikale, à pied et à bord de leur jeep, selon les habitants. Le point avec vous, Judo, Mister Bilanda.
Les habitants de Walikale témoignent que les rebelles se seraient scindés en groupe. Les uns auraient pris la direction des Moubi, d'autres l'axe d'Entoto et d'autres encore se seraient dirigés sur l'axe Itébéro. La même source confirme également de la présence de certains rebelles au centre du chef-lieu du territoire. C'est là, en dépit de leur annonce de se retirer des Walikale centre et environ. Pendant ces temps, les FRDC disent prendre acte de ce repositionnement afin d'encourager la désescalade et privilégier les processus de paix en cours, dit le général Sylvain Ekenge, porte-parole de l'armée.
Les FRDC vont s'abstenir de mener toute action offensive contre les forces ennemies, tout en enjoignant les forces d'autodéfense congolaises à en faire autant.
Le général Ekenge ajoute qu'à ces stades, les FRDC restent mobilisés. Elles se réservent le droit d'intervenir à l'observance de tout mouvement hostile qui s'avérerait être de nature à compromettre la pause de combat ainsi qu'à menacer la sécurité des populations, tout comme celle de l'intégrité du territoire national.
De son côté, le Rwanda a salué hier dimanche l'annonce du M23 concernant le repositionnement de ses forces depuis Walikale au Nord Kivu en soutien aux initiatives de paix en cours. Dans un communiqué, le gouvernement rwandais affirme son engagement à travailler avec toutes les parties afin de garantir le respect des engagements, notamment dans le cadre du processus conjoint du sommet EAC-SADC et d'autres initiatives visant un règlement politique et sécuritaire durable pour la région. Le gouvernement congolais, lui, dit attendre des actes concrets du M23. En réaction toujours à ce repositionnement, la société civile de Walikale dit ne pas avoir foi en cette décision du M23. Pour elle, ce repositionnement est une distraction pour endormir le gouvernement et les forces armées de la RDC. Elle parle d'une stratégie des rebelles pour se renforcer afin de reconquérir d'autres entités. Elle le demande à l'armée et à la population d'être vigilante. On écoute Fiston Missona.
C'est une façon de tromper la vigilance nationale et internationale, aussi à la communauté internationale. Et alors que ces éléments seraient sur terrain, et voire même à ce moment où nous vous parlons, ils sont en train de déborder pour contourner les positions des FARDC et les surprendre au-delà du chef-lieu du territoire en allant vers l'axe Kisangani. C'est pour cela que nous sommes habitués à leur fratrie. Et ça fait longtemps qu'ils ont toujours eu cette habitude-là pour tromper le silence de la population. Voilà donc pourquoi nous interpellons le gouvernement congolais au travers les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC et Wazalendo, de les poursuivre jusqu'au bout afin d'arrêter cette hémorragie, de les faire quitter par la force en territoire de Walikale.
Notez que plusieurs sources à Walikale confirment l'atterrissage de deux aéronefs vendredi et samedi dernier sur la piste de l'aérodrome de Kigoma. Ces appareils transporteraient des présumés hommes armés, selon ces sources. Le gouvernement congolais se dit désormais ouvert à des discussions directes avec la rébellion du M23 après une longue période de résistance. Déclaration samedi de la ministre d'État aux Affaires étrangères au cours d'un café de presse. L'objectif, selon Thérèse Kayikwamba, est d'obtenir une cessation des hostilités et de mettre fin aux violences contre les populations civiles dans l'est du pays. Les détails avec Askin Zigbia Tayoro.
Ce café de presse a été une occasion pour Thérèse Kayekwamba Wagner d'informer les journalistes sur l'évolution des efforts diplomatiques fournis par la RDC en vue de résoudre le conflit à l'est du pays. Elle a expliqué la raison ayant poussé le gouvernement à accepter un dialogue direct avec M23.
La République démocratique du Congo, à ce moment précis, a estimé qu'il était plus opportun pour nous et surtout pour nos populations d'engager cette discussion directe avec le M23. Si cela aurait pour répercussion justement une cessation d'hostilité, une cessation des violences contre nos populations civiles.
Par ailleurs, à cet échange, Thérèse Kayekwamba Wagner a évoqué la situation de la paye du personnel de son ministère. Pour elle, il est inacceptable que le personnel qui l'accompagne souvent dans des missions à l'étranger soit payé 3 mois après.
Nous allons, avec l'appui du ministère des Finances, aller vers une paie mensuelle. Deuxième diagnostic, c'est que la paie, elle tarde parfois, parce que justement, il y a des transactions bancaires à faire. Nous sommes aussi en train de travailler pour identifier des solutions qui vont nous permettre de munir nos diplomates de cartes de crédit pour leur permettre de recevoir de manière automatique leur paie immédiatement.
La ministre regrette que ces retards de la paie s'étendent de fois au-delà de 3 mois.
Notez aussi que la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, annonce sur son compte X la tenue d'un sommet conjoint virtuel avec la communauté d'Afrique de l'Est, EAC, ce lundi 24 mars. Cette réunion réunira les chefs d'État et de gouvernement de deux organisations pour discuter de la situation sécuritaire en RDC. Le sommet sera co-présidé par le président Kenya William Ruto, président en exercice de l'EAC, et son homologue zimbabwéen Emerson, président en exercice de la SADC. Y participeront les membres de la double troïka ainsi que les États engagés dans la mission de la SADC en RDC. Les discussions porteront sur le rapport de la réunion conjointe des ministres des Affaires étrangères tenue le 17 mars à Harare, qui avait adopté une feuille de route pour restaurer la paix et la sécurité dans l'est de la RDC. À Kinshasa, les consultations politiques en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale vont démarrer ce lundi 24 mars. 4 catégories d'acteurs sociopolitiques de la RDC sont concernées, à savoir la majorité parlementaire, les partis et regroupements politiques, la société civile ainsi que quelques personnalités du pays. L'annonce du début de ces discussions a été faite le samedi par le directeur de cabinet du conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité au cours d'un point de presse. Répondant à une question, Espoir Massamanki a précisé que le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité n'exclut pas de recevoir les délégués de l'AFC M23, mais ceux-ci doivent avant tout adhérer à un certain nombre de préalables. Espoir Massamanki est au micro d'Alain Irong.
C'est la raison pour laquelle, dans le mot du conseil spécial, il a voulu commencer par énumérer les principes qui fondent les consultations. Et parmi ces principes, il y a l'intangibilité des frontières, il y a l'unité nationale. Ça veut dire que si ces personnes acceptent d'adhérer à ces principes, c'est à cette condition qu'ils participent aux consultations politiques. Parce qu'on ne peut pas violer ces principes et vouloir participer aux consultations politiques. Donc c'est un préalable et ce sont les principes qui fondent les consultations politiques. Donc le respect de la Constitution, comme on l'a dit, l'intangibilité de nos frontières, l'intégrité territoriale, ils doivent donc respecter ces différents principes qui fondent les consultations politiques.
Concernant la durée de ces consultations politiques en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale, le directeur de cabinet du conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité a souligné qu'elles ne dépasseront pas 2 semaines. Des dizaines de sites miniers tenus par des expatriés chinois sont gardés par des militaires et policiers congolais en Ituri, au détriment des victimes des atrocités des groupes armés dans le territoire de Mambasa, déplorent des acteurs de la société civile. Ils ont visité certains sites miniers dans la zone. Pour ces activistes, la présence des militaires dans ces sites en cette période où le pays fait face à l'agression des rebelles, dont des ADF, fait désordre. Le point avec Ezekiel Mouzalir.
Il s'agit par exemple des sites MRM 1, 2 et 3, Talissa, Talawé, ainsi que d'autres étendues exploitées par Kimia Mining dans les chefferies des Bombo et Bandaka dans le territoire de Mambasa. Selon le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise dans la zone, les militaires sont postés à plusieurs barrières où ils assurent la protection des sites. Jospin Boa.
Ils sont attachés sur des barrières. Sur chaque barrière, il y a 4 militaires. Donc les militaires doivent quitter les sites miniers des Chinois et venir traquer les ADF. Vous n'entendrez jamais mec, il y a un site minier des Chinois qui a été attaqué. Mais chaque jour, vous apprenez qu'il y a des morts dans les champs des agriculteurs.
De son côté, l'administrateur du territoire de Mambasa indique que la présence de ses forces et de l'ordre est d'empêcher les groupes armés, dont les Mai Mai, de reprendre le contrôle de ces endroits où il y a des gisements de minerais.
L'armée était en train de pourchasser les groupes armés. L'armée quittait, c'est pour laisser encore la place à ces groupes armés de revenir s'installer. C'est ainsi qu'ils ont pris position dans ces endroits-là avant que ça ne soit des sites miniers.
Plusieurs agglomérations de la chefferie de Babila Babombi sont régulièrement la cible des ADF ainsi que des voleurs de cacao. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
L'entreprise générale Malta Forest met fin à ses activités dans la province du Tanganyika et renvoie au chômage près de 300 agents. À la base de cette décision, d'après plusieurs sources, Malta Forest subirait une pression financière injustifiée de la part de la SAEMAP, un service qui encadre des exploitants artisanaux et les coopératives. Cette question a été au centre d'un échange jeudi dernier à Kalemi entre le président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika et la délégation syndicale de Malta Forest. Plus des détails avec Paulin Munanga.
Selon des sources proches de l'entreprise, tout commence en 2022. SAEMAP adresse une correspondance à Malta Forest pour qu'elle s'acquitte des taxes d'exploitation et dont le montant est estimé à 1 800 000 dollars américains. Face au refus de Malta Forest de payer ces montants, SAEMAP se décide de porter plainte au parquet près la cour d'appel de Kalemi, rapporte les mêmes sources. En décembre 2024, sur demande de SAEMAP, le parquet scelle toutes les carrières des moellons et des graviers de Malta Forest. En réaction, les responsables de cette entreprise font savoir que Malta Forest, qui est à l'échelle industrielle, n'a aucun compte à rendre à SAEMAP qui encadre les exploitants artisanaux et les coopératives. En février dernier, l'entreprise décide de renvoyer au chômage près de 300 de ses agents. Et depuis quelques jours, Malta Forest commence à démobiliser ses matériels vers Lubumbashi et Kolwezi. Contacté par Radio Okapi, le directeur provincial de SAEMAP dans le Tanganyika n'a pas voulu s'exprimer à ce sujet. Côté gouvernement du Tanganyika, le porte-parole fait savoir que le dossier est au niveau du ministre provincial de Mines.
Au Kasaï Oriental, lancement ce vendredi dans quelques écoles de la commune de Dioulou en Mbujimayi de la sensibilisation à la culture générale. L'autorité municipale a commencé cette action au complexe scolaire Eureka 5, non loin de la mairie de Mbujimayi. Ben Kabangou a mis un accent particulier sur la connaissance des dirigeants du pays, des institutions nationales, provinciales, urbaines, jusqu'au chef des quartiers, Esther Ndalafina.
Ben Kabangou, bourgmestre de la commune de Dioulou, a commencé cette sensibilisation par l'évaluation des connaissances des élèves.
Il connaît le nom du président de la République.
Selon le bourgmestre, le but de cette activité est de faire connaître aux élèves les noms de leurs dirigeants.
Nous avons trouvé que, à part les noms du président de la République que tout le monde a maîtrisé, mais les noms du gouverneur de la province, les noms du maire de la ville, du bourgmestre, de leur chef de quartier. Donc, beaucoup d'élèves n'étaient pas à la hauteur.
Quelques élèves apprécie cette action.
Je m'appelle Aldi Boutoumbi Changan. Quand je rentre à la maison, on me posera qu'est-ce que vous avez étudié à l'école. J'ai retenu que le président de la RDC s'appelle Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Marcel Mwamba, directeur de Eureka 5, salue cette initiative et compte le pérenniser.
Quand les enseignants enseignent en classe, ils les font par moyen de la photo. Alors aujourd'hui, c'était une grande chance devant les enfants pour voir les bourgmestres, le chef de quartier. Ils ne pouvons pas nous arrêter par ce que le bourgmestre a fait. Les enseignants vont continuer à donner les mêmes informations au cas où ces mêmes autorités continuent à exercer.
Signalons que le bourgmestre a aussi sensibilisé les élèves du complexe scolaire Mukajiwa Chitembo. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Dans la ville de Matadi au Congo central, les habitants de la cellule Angoango au quartier Soyo dans la commune de Matadi n'a plus accès à l'eau potable depuis novembre 2024. Pour le comité de suivi et développement de cette entité, le manque de cette denrée vitale est causé par la malveillance des agents de la régie des eaux. Dans un mémorandum adressé au directeur provincial de la régie des eaux, le comité de suivi et développement de cette cellule déplore cette situation et appelle la régie des eaux à trouver urgentement une solution.
Actualité internationale.
Six policiers kenyans ont été tués par des combattants islamistes radicaux Shebab qui ont attaqué hier dimanche un camp de réservistes de la police près de la frontière avec la Somalie, annonce faite par la police kenyane. L'assaut mené avec des armes diverses a eu lieu tôt dans la matinée à Biyamado dans le comté de Garissa, a indiqué un porte-parole de la police kenyane à la presse.
L'invité.
Joe Shortano, responsable de l'entreprise Mentecas, est notre invité. Il explique comment les jeunes peuvent créer de l'emploi, entreprendre et étendre leurs activités, même à partir des faibles moyens, à travers le numérique. Joe Shortano s'entretient avec Jean Gando.
Joe Shortano, bonjour.
Bonjour, monsieur Jean.
Dites-nous, comment comptez-vous créer l'emploi, notamment pour les jeunes?
Bon, déjà, nous avons lancé une plateforme en ligne qui permet de mettre en relation les utilisateurs et les prestataires de services à proximité de chez eux. Et il y a beaucoup de travailleurs indépendants, de soudeurs, de mécaniciens, des gens qui œuvrent à leur compte et qui n'ont pas accès à un grand marché. La plateforme met à leur disposition cet écosystème qui leur permet de vendre leurs services à bien plus que de personnes qui sont autour d'eux.
Concrètement, ça s'est fait de quelle manière?
C'est très simple. Il suffit de taper sur Google, mentecas.com, vous rentrez sur la plateforme, vous créez un compte, selon vos objectifs, soit pour vendre des services ou pour acheter des services. Et c'est un processus qui ne dure que quelques secondes.
Est-ce que cela requiert au préalable une formation?
Pas forcément. Il y a déjà des tutos qui orientent à ce qu'il veut créer de compte. Il suffit d'avoir juste une compétence qui peut être utile pour quelqu'un et de vendre cette compétence sur la plateforme.
Et quels sont les domaines qui sont les plus privilégiés?
Nous avons beaucoup plus pensé au domaine de la construction, la maintenance, où nous voyons les mécaniciens, automobilistes. Nous voyons même des personnes qui font les services d'entretien, nettoyage de maisons, de vitres, carreaux et autres. Ce sont des personnes qui peuvent créer des comptes et vendre des services. Parce que la plupart des personnes dans notre milieu œuvrent dans ces multiples tâches-là. Mais beaucoup aussi plus pour des services en ligne à distance, tels que les programmeurs, informaticiens. Si on a besoin d'un site web, besoin d'un conseil en marketing digital. Ce sont souvent ces services qui sont aussi très demandés en ligne et ce sont ces services qui sont mis en avant.
Mais où placez-vous l'agriculture?
C'est d'ailleurs pour ça que nous avons sur la plateforme un secteur clé de l'agriculture. Mais vous allez vous rendre compte que dans l'agriculture, il est difficile de vendre ces services à distance. Là, ce sont des produits qu'on vend. Donc, on a pensé à un écosystème où on va permettre aux agriculteurs de créer leurs comptes, même si c'est déjà possible qu'ils peuvent créer leurs comptes et exposer leurs produits et les vendre, mais on voulait maintenant créer un espace qu'on appellerait un espace de troc. Donc, il peut exposer ses produits en vente. L'utilisateur qui se connecte pour acheter peut facilement acheter les services. Vous allez vous rendre compte quand vous êtes au niveau de Kamina, Kabongo, Kitenge, Kabinda, Mwenedito, il y a des maïs et de palmes qui pourrissent sur la route. Simplement parce qu'il n'y avait pas de marché où vendre. Et puisqu'il n'y avait pas cette facilité de les faire acheminer vers les endroits où il y a les besoins, c'était compliqué. Alors, la plateforme permet à ces personnes, où qu'elles soient, de pouvoir créer un compte et de vendre leurs produits. Ce qui permet de combler l'offre et la demande très facilement.
Quelles sont les conditions d'accès à la plateforme?
C'est gratuit. Vous créez un compte gratuitement. Vous commandez vos services gratuitement.
Ça veut dire autrement que vous accompagnez ceux qui sont sur la plateforme dans la manière de voir des potentiels partenaires.
C'est même ça le langage de la plateforme. L'égalité d'opportunité pour tous. Moi, j'ai commencé l'entrepreneuriat sans rien. C'était en 2013. J'ai pas été parrainé par quelqu'un. J'ai lancé un projet. J'ai commencé à chercher les financements que j'avais jamais trouvés. Mais par contre, aujourd'hui, avec la venue de la technologie, du numérique, il est possible de se faire entendre, de se faire vendre sur un marché plus vaste où des gens viennent et choisissent de travailler librement avec quelqu'un.
Au départ, qu'est-ce qu'il faut avoir? Juste la connaissance ou des moyens?
Juste la connaissance. Si on sait déjà réparer une serrure d'une porte, venez sur la plateforme et vendez ces services. Ceux qui ont besoin qu'on répare la serrure, nous ferons en sorte qu'ils puissent vous commander les services.
Et comment vous assurez de de la qualité, de la compétence de ceux qui doivent vendre leurs services.
Après avoir créé un compte, il y a un processus de vérification de compétences. Premièrement, on vérifie la vraie identité de la personne. Après ça, si la personne a un certificat qui atteste de ce qu'il vend comme service, il peut télécharger, ce qui laisse le libre choix à l'utilisateur de constater qu'il travaille avec une personne vraie qui a soit vérifié ses compétences ou qui ne les a pas vérifiées, mais qui a chargé par exemple son portfolio d'images qui indique ce qu'il est en train de faire. Donc l'utilisateur est libre de décider de travailler avec lui. Nous avons pris une initiative avec notre partenaire KML Investissement pour la formation professionnelle. Vendre la formation professionnelle sur la plateforme, mais déjà pour ceux qui sont sur la plateforme, on crée des formations gratuites. Pas une formation de maîtrise de compétences, parce qu'on estime qu'ils ont déjà des compétences, mais une formation d'encadrement et de renforcement des capacités.
Je vous remercie.
Merci, Monsieur Jean.
Et c'est par là que prend fin ce journal présenté par Noéla Luzito Kabambi et mis en onde par Jean-Claude Nsiala, un journal préparé par Alain Irongo. Merci à vous tous de nous avoir suivis.